salut.
Hello, bonsoir.
Ça va?
Très bien.
Et Cam?
On est avec Sébastien dans le studio de Radio G pour Imaginaire jusqu'à 22h. Tu nous as invité.
Oui.
Un écrivain suisse.
On avait eu Gianni Luca Roberto, souviens-toi, en mars de l'année dernière.
Ouais, au téléphone, et puis qui est venu au Salon Imaginaire, d'ailleurs, voilà. Juste après.
Et là, on a Kevin Tondin ce soir, donc un ami de longue date, et qui va nous présenter La Perle solaire, son premier roman de fantasy.
Donc Kevin, on l'aura au téléphone hein, dans quelques minutes. Et puis avec nous, on a Jean-Christophe.
Bonsoir.
Dans le studio.
Merci de m'avoir convié ce soir à nouveau.
Qui vient nous parler comics. Alors on reste un peu dans notre, on va dire, un peu thématique Robert Howard, Conan et Barbarie.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ça va être un peu un comic book en hommage à l'univers de Howard et par le biais d'un autre univers, mais qui s'en rapproche pas mal.
Très bien. Et puis en fin d'émission, dans la rubrique Agenda, on aura. J'ai enregistré Julien Védrenne, qui nous causera de l'événement qu'il organise jeudi au cinéma Saint-Charles, hein, Grande, hein, autour du Cercle Rouge, film de Jean-Pierre Melville.
Très connu.
Avec, donc c'est le premier assistant réalisateur, si j'ai bien compris, qui est invité et qui parlera aussi pendant cette projection. Eh ben, on s'écoute le premier choix musical de notre invité, le temps qu'on le tope au téléphone. Eivor, chanteuse des îles Féroé, si je me rappelle bien, qu'on a pu voir au Motocultor Festival, puis qui avait fait une petite tournée française, plutôt musique, enfin néo-folk, païenne. Et donc, c'est la BO d'une série et d'un film, The Last Kingdom, et c'est ton choix, Kevin. Allô, allô ?
Allô, je suis là.
Il est là.
Bonsoir tout le monde.
Salut, ça va ?
Bonsoir.
Ça va et vous-même ?
Super.
Voilà, bah on est avec toi. Alors je suis très 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 heureux donc de t'avoir au téléphone. Comme je disais, je te connais depuis très 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 longtemps. Donc depuis la taverne des aventuriers où tu étais donc sous le surnom de Sombre Cœur, ça remonte à quand même à 15 ans en arrière.
Donc c'est un fan de livres dont vous êtes le héros. Alors voilà, Kevin, si je comprends bien,
un fan de livres dont vous êtes le héros et qui en a écrit. J'en ai parlé d'ailleurs l'été dernier.
Exactement.
D'Alien.
Oui. C'est ça, oui, tout à fait.
Et là, ce soir, j'ai le plaisir de parler avec toi de La Perle solaire chez Illyr Éditions, le tome 1, parce que c'est une trilogie.
Exactement.
En fait, les chroniques de l'Alliance. Et peux-tu rapidement nous présenter nos auditeurs du 101.5 ?
Oui, bien sûr. C'est une fiction d'Heroic Fantasy où on suit plusieurs personnages dont le but est de prendre possession justement de la perle solaire pour éviter que l'antagoniste en prenne possession, parce que si c'est le cas, il refera revenir à la vie tous les siens, et bah, si c'est le cas, bah, ce sera la guerre dans tous les royaumes. Donc on suit vraiment les aventures de ces personnages qui essayent de mettre cette perle loin du méchant du livre.
Et d'ailleurs, tu as une carrière quand même bien remplie d'auteurs de romans, depuis 2016 et la sortie d'Arena. Mais d'où te vient cette passion aussi forte pour l'écriture ?
Oh, j'ai commencé à lire depuis très très tôt, justement avec les livres dont vous êtes le héros, que mon frère voulait bien me prêter. Et à force de lire, j'avais envie de commencer aussi à rédiger mes propres histoires, surtout qu'en parallèle, je suis aussi un gamer, et en plus, je regarde beaucoup de films et de séries. Alors, c'est pas vraiment les idées qui manquent. Puis, un jour, j'ai décidé de franchir le pas, et La Perle solaire est née.
C'est marrant, parce que les livres dont vous êtes le héros, des fois, nous incitent, là, où ils nous disaient, non, mais qu'est-ce que tu lis, et tout. Puis finalement, tu vois que ça donne quand même à des gens d'écrire. Et ils écrivent et encore, même, des dizaines d'années après.
Ah oui, tout
exactement.
À fait. Et donc là, je disais que tu avais une carrière bien remplie d'auteurs, parce que tu as écrit quand même déjà pas mal de romans avant La Perle solaire, 4 si je me trompe, Massacre en Engadine, qui te plairait, Romain, comme c'est un slasher.
Ah,
on a eu même une sorte d'Hunger Games avec Arena, qui est vraiment génial. Voix dans la nuit, je pense aussi à Motel 66. Mais quel pas en écriture représente de passer de 4 premiers one-shot à une saga ?
Au début, alors faire une saga, ça a toujours été mon objectif principal. Mais avant ça, je voulais un petit peu m'exercer dans l'écriture de romans, on va dire, un peu plus courts. Parce qu'une fois qu'on se lance dans une saga, en général, on n'arrête plus. Alors avant ça, je voulais écrire d'abord des genres. Avant d'écrire la fantasy, je voulais écrire d'autres genres. Mais juste me contenter d'un seul tome pour me faire la main, comme on dit. Et puis là, après avoir fait de l'horreur, du thriller, etc., je me suis dit, c'est bon, maintenant, j'ai assez d'expérience pour me lancer dans une vraie saga de fantasy.
Ok.
Et pourquoi c'est toujours des sagas, la fantasy, alors ?
Il y a tellement de choses à raconter dans un univers de ce style-là que je pense pas que c'est les idées qui manquent.
Il faut déjà décrire tout l'univers par rapport au roman horrifique.
Tout dépend du premier tome. Il faut mettre toutes les bases. Et puis si les gens ils adhèrent, après c'est tout bon.
On a toujours quand même l'influence de Tolkien, non ? Peut-être.
Enfin, c'est un peu la façon. Aussi,
Ah oui, oui. On va rentrer un peu en mode Tolkien à Angers, là. Il y a la grande expo qui arrive au musée de la tapisserie. Et donc, il va y avoir beaucoup de festivités Tolkien dans les mois qui arrivent à Angers, là.
Ouais, la fantaisie plaît toujours autant. Et en 2005, paraissait La Guerre des Trois Royaumes, ton roman dont vous êtes le héros de fantaisie, le premier, en fait. Et qu'en as-tu gardé comme source inspirante pour tes lecteurs de La Perle solaire ? Parce qu'en fait, Romain, dans La Guerre des Trois Royaumes, qui est toujours disponible sur Litteraction gratuitement en AVH, en aventure donc jouable à jouer. On a des éléments donc qu'on retrouve dans La Perle solaire.
C'est lié
en fait.
Voilà. En fait, c'est censé se passer dans le même univers, parce que l'univers que j'ai créé pour la Pince solaire, c'était celui que j'avais utilisé pour la guerre des Trois Royaumes. Malheureusement, suite à un déménagement, j'avais perdu toutes mes notes, tous mes plans que j'avais dessinés. Et bah, c'est à cause de ça qu'il n'y a vraiment jamais eu de suite à la guerre des Trois Royaumes, malheureusement. Mais du coup, je me suis rattrapé quelques années plus tard avec justement bah, la Perle solaire et les suites.
D'accord. Et là, je vais en venir particulièrement au roman La Perle solaire. Dans les 100 premières pages, des figures paternelles se détachent. Celles de Bryn et de Kyrian, Kyrian, respectivement le père biologique et le père spirituel du principal héros Dravis. En quoi ces figures paternelles sont-elles appréciées par toi à mettre en scène ?
Alors, Dravis, quand il quitte son village, c'est un jeune homme qui n'est quasiment jamais sorti de chez lui, donc il doit découvrir tout ce monde. Alors, je me suis dit que de lui faire trouver un mentor qui pourrait lui inculquer toutes sortes de valeurs, qui pourrait l'apprendre à se battre, à lui faire découvrir les us et coutumes du monde qui l'entoure, je me suis dit que ça pourrait être des bonnes interactions. Et surtout, j'ai l'impression qu'un peu la figure du mentor, c'est quelque chose qui est très souvent représenté dans les univers de fantasy, à l'instar des vieux sages. Et je trouvais que c'était bien d'avoir le père spirituel et le père vraiment de sang, comme on dit. Chacun apportant différentes valeurs à Dravis.
Oui, et puis on voit que c'est des personnages qui sont très développés et qui nous touchent particulièrement. Alors, on voit quand même l'influence de la littérature interactive dans La Perle solaire. Je suis un vieux briscard, quand même, romain des livres dont vous êtes le héros.
Oui, ça.
Alors, face à des loups noirs se retrouve donc Dravis à un moment donné, au tout début. Et j'y perçois, Kevin, une allusion discrète à la scène d'ouverture d'un fameux défi fantastique qui a été réédité chez Gallimard Jeunesse, donc en France, La Nuit du Loup-Garou. Comment s'exprime autrement la part d'influence des livres dont vous êtes le héros dans ton process d'écriture?
Alors, c'est vrai que bien que ce soit mon préféré de livre dont vous êtes le héros, j'avoue que sur le moment, je n'ai pas tellement pensé à ça, même si c'est vrai que les premières pages de ce livre-jeu-là est très marquant, mais c'est vrai que je ne me suis pas spécialement inspiré de ça. Mais ensuite, c'est les différentes rencontres que les personnages font qui sont un peu tirées des livres dont vous êtes le héros. Ils vont dans une forêt, bah, y a des loups, ils vont dans des rues, y a des brigands, il y a toujours un peu y a des combats. Inconsciemment, c'est de ça que je m'inspire quand j'écris.
D'accord. Et La Perle solaire, ce n'est pas qu'un artefact qui donne son titre au roman, mais qui également, pour moi, pourrait donner son nom à l'amour que tu décris si bien entre Dravis et Anastasia. La romance, sans dire que c'est de la romantésie, hein, qu'apporte-t-elle pour toi la romance dans ta fantaisie que tu offres au lecteur ?
Bah, la romance, c'est ce qui permet de donner un peu le côté émotion du récit. C'est aussi des valeurs qui permettent aux personnages d'avancer, parce qu'on dit toujours que l'amour guide nos pas, et c'est aussi avec l'amour que le personnage peut avancer. Il a toujours ça en tête, ça lui donne justement envie d'aller de l'avant. Et bah aussi l'amour, bah ça permet aussi de faire de très belles scènes d'émotion qui permettent de développer les personnages dans un monde de brut, comme on dit.
Est-ce qu'on peut offrir ce roman pour la Saint-Valentin ? C'est bientôt.
Alors, je pense peut-être pour les premières pages, peut-être pas forcément pour la suite.
Ouais, parce qu'on veut pas trop divulguer.
D'accord.
Et je trouve qu'il y a vraiment les sentiments, ils sont si bien exprimés. Moi, ça, à un moment donné, bah, je me suis arrêté dans la lecture parce que j'étais vraiment, vraiment bouleversé par ce que vivait Dravis et sa dulcinée Anastasia. Et pour en revenir un peu à la littérature interactive, je sais que tu es un grand fan, comme moi, de Loup solitaire. Et assez souvent, dans les tomes de la très grande saga de Loup solitaire, donc on a toujours chez Gallimard Jeunesse, nos héros ont à contrer les pouvoirs néfastes de puissants artefacts aux mains de noirs ennemis. Toi, donc, en tant que lecteur-joueur de LS, que tires-tu comme ressort dramatique dans le recours de l'artefact, ici la Perle solaire ?
Bah, pour moi, j'ai mis cet objet parce qu'au moins ça donne un objectif déjà de base au personnage. en dehors d'affronter le grand méchant. Au moins là, on suit les personnages, leur aventure pour essayer d'acquérir cette perle solaire. Puis après, une fois qu'ils ont cet artefact en main, c'est clair que l'antagoniste, il voudra à tout prix s'en emparer. Alors, il envoie des tueurs. Alors, du coup, il y a des combats, il y a de la fuite, il y a de l'intensité. C'est ce qui permet... Enfin, je trouvais que c'était bien quand même d'avoir un objet un peu mystique. Et de toute façon, que serait un univers de fantasy s'il n'y avait pas un objet mystérieux ou un artefact magique?
Et toi, Jean-Christophe, qui est spécialiste de Conan, tu abondes dans ce que vient de dire Kevin sur l'artefact?
Oui, c'est souvent le cas, ouais, l'artefact, ou alors... Conan, c'est peut-être plus une quête personnelle, on va dire. Une quête de...
Moi, je trouve qu'il navigue un peu à vue, Conan, mais bon.
Ouais, c'est ça, c'est plus une quête personnelle de monter, de changer de statut.
Je me répète par rapport à l'émission d'avant, mais Conan, lui, ne va pas sauver le monde. Je pense qu'il s'en fout. Hein.
Non, il va vraiment... c'est vraiment plus un instinct de survie et puis de gravir les échelons au cas échéant. Mais
c'est aussi la différence entre Ward et Tolkien et entre Conan et Bilbo, quoi.
C'est pour ça que c'est intéressant de présenter un peu toutes les facettes de la fantasy. Ouais. Et on va continuer donc à présenter la perle solaire avec toi, Kevin. Mais après, ton nouveau choix musical qu'on va passer, dis-nous en quelques mots.
Ouais, alors déjà, moi j'arrive pas à prononcer le nom de ce monsieur. C'est un extrait de la BO de The Witcher, mais un jeu vidéo.
Oui.
Oui, exactement.
Je pense qu'il est polonais.
Voilà, oui, c'est ça, exactement, c'est tiré du jeu vidéo The Witcher 3, et c'est le thème qui apparaît souvent pendant les combats. Alors, je me suis dit, rien de mieux qu'une musique qui se passe pendant les combats, pendant que moi, j'écris mes scènes de bataille. Voilà, c'est vraiment, voilà, quand on écoute ça, on a vraiment envie de prendre son épée et puis de partir sur le champ de bataille.
Bon, là, du coup, ce sera une version live, donc c'est Marcin Przygłowicz avec le groupe Percival, et c'était pendant la WitcherCon en 2018. À tout de suite, Kevin.
À tout de suite.
À tout de suite.
Retour dans l'imaginaire avec Kevin Tondin au téléphone.
Pour, oui, bien celui-là.
La perle solaire.
Chez Illyr Édition. Et donc, on va reprendre le fil de l'interview. Alors déjà, je te remercie déjà pour toutes les réponses que tu nous as apportées jusqu'ici.
Alors, un grand plaisir, merci à vous.
Alors, j'ai remarqué quand même qu'il y a un prologue, un épilogue, 63 chapitres. En fait, pour 464 pages. Et vu le nombre conséquent de chapitres, qui sont quand même assez courts, mais pourquoi n'as-tu pas divisé l'histoire en parties, comme il y a différents personnages? C'est un peu une aventure chorale.
C'est vrai. Au début, j'ai hésité à faire la première partie où on suit Drevis et Anastasia dans leur vie au village, après un deuxième chapitre avec la fuite de Drevis, un troisième chapitre où il est dans le village, la tribu des loups maudits, après une quatrième où il quitte justement la tribu, mais en parallèle on suit aussi des aventures de d'autres personnages et je savais pas trop comment inclure toutes ces parties sans que ça devienne lourd. Alors finalement je me suis dit, comme c'est des chapitres courts, il n'y a pas trop besoin de faire des parties en fait.
Et pour toi, faire des chapitres courts, pourquoi en fait faire vraiment des chapitres courts de préférence à des chapitres longs? Est-ce que tu tiens ça plutôt des paragraphes de livres dont vous êtes le héros, pardon, qui sont souvent assez courts en fait?
Alors ça peut ma marque de fabrique, parce que moi, je suis aussi, avant d'être auteur, je suis aussi lecteur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est des chapitres courts, parce que comme ça, je peux me dire, allez, encore un ou deux avant de dormir. Ça, voilà. Et moi, je suis pensé dans cette optique. Et moi aussi, avec des paragraphes, des chapitres courts, ça tient toujours le lecteur en haleine. Voilà. Tandis que si on fait des longs paragraphes, chapitres, pardon, ils vont peut-être s'arrêter pile au milieu parce qu'ils vont trouver que c'est trop long. Puis ça, je trouve que c'est vraiment dommage.
Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment chaque chapitre, c'est une scène vraiment marquante. Et pour en revenir encore au chapitre, sur les 20 premiers chapitres, 15 sont consacrés à Dravis. Et qu'est-ce qui t'a plu, Kevin, de mettre davantage en scène ce personnage principal que d'autres tout aussi intéressants comme Unamus, le prêtre soldat, Kelly la voleuse, Raven l'empereur?
Alors, parce qu'en fait, Dravis, c'est le personnage principal original de la saga, en fait. Je voulais vraiment prendre le temps de le présenter pour que les lecteurs puissent vraiment s'attacher à lui. Les autres personnages, ils ont déjà un petit peu de vécu, tandis que là, on suit vraiment, on va dire, les toutes premières aventures de Dravis. Mais au fil des tomes et des chapitres, les autres personnages seront également sur le même niveau de scène que Dravis. Mais là, je voulais vraiment prendre le temps de décrire le personnage principal.
Ok. Et donc, je citais Raven l'Empereur, donc, qui est le grand méchant de l'histoire. Et pourquoi choisir la peau d'un vampire plutôt mystérieux, donc, pour ce grand méchant qui me rappelle une autre redoutable figure connue de vampire romain, en DF, Défi Fantastique, avec aussi des plans de conquête du monde, et ce, dans La Revanche du Vampire.
Exactement, qui fait partie de mes préférés.
Ah, décidément.
Ah bah, décidément.
Voilà, décidément.
Tout,
voilà.
Avait les mêmes...
tout est lié. Bah, la figure de vampire, c'est pratique parce que c'est un être qui a une très longue longévité. Donc, ça vous permet de pouvoir parler de son passé, de tout ce qu'il a vécu il y a plusieurs centaines d'années sans que ça paraisse bizarre. Ensuite, bah, c'est un personnage aussi style humanoïde. Donc, je veux dire, on peut plus se familiariser avec. Ensuite, bon, c'est aussi un être aussi menaçant qui peut être un méchant crédible. Et qui est aussi fort, puissant. Et je me suis dit qu'un vampire, ça pourrait être très bien. Au début, c'était même pas prévu que ce soit un vampire. C'est vraiment par la suite que j'ai eu cette idée.
D'accord. Donc, je n'en dis pas plus pour découvrir donc, le vampire.
Exactement.
Dans la perle solaire. Voilà. Et là, je vais en venir au monde. L'ancien continent. Autrement, Tolicia, voilà. L'ancien continent, donc le cadre des aventures de Dravis, se dévoile peu à peu au fil des chapitres lus, ça j'aime bien, par petites touches. Et comment l'as-tu conçu, cet ancien continent, pour le rendre unique, comparé à d'autres mondes imaginaires célèbres? Le monde de Conan, que tu connais bien, Jean-Christophe, celui du Seigneur des Anneaux qu'on a évoqué avec Romain.
Alors, je ne suis pas forcément très compliqué la tâche. J'ai vraiment fait des royaumes style par biome. Au nord, c'est vraiment tout ce qui est terre glaciaire. Au sud, c'est un peu la terre désertique. Au milieu, on va dire que c'est un petit peu le style plaine. Après, il y a les îles autour, ben, qui est plutôt ambiance océan, etc. Voilà, c'est surtout pour permettre aux lecteurs de bien s'y retrouver quand ils suivent les aventures des personnages, pour savoir directement où est-ce qu'ils se trouvent. Voilà, je voulais éviter de faire quelque chose de trop compliqué. Là, au moins, on arrive bien à définir chaque endroit où les héros passent.
Ouais, chez Robert Howard, c'est pareil, hein, le monde de Conan, ouais.
Alors, dans le monde de Conan, on a une carte, et est-ce que Kevin, pour le prochain tome, on aura une carte donc de Tolicia?
Indispensable, normalement, dans un roman de fantasy.
Oui, c'est vrai. Alors, on m'a fait la même remarque, effectivement, c'est quelque chose que j'ai omis d'insérer dans le premier tome, mais j'avais encore pas défini clairement l'action principale, oui, mais pas forcément tout ce qui était autour. Mais là, maintenant, grâce à mon meilleur ami Kai, qui lui maîtrise bien, il m'a, à l'aide de mes notes, il m'a créé informatiquement une map style qu'on trouve dans les livres ou dans les manuels de jeux de rôle. Et ça, en principe, j'essaierai de l'insérer dans le tome 2.
Ok. Alors, ni orque, ni gobelin. Quel bestiaire as-tu imaginé pour trancher d'avec ce qu'on connaît d'habitude en littérature fantasy?
Parfait. C'est drôle que tu me dises ça, parce que justement, quand mon frère il a eu mon roman, il s'attendait à ce qu'il y ait des elfes, des gobelins, des orques. Puis il m'a dit c'était trop bien, vraiment bien, mais ils sont passés où ces créatures-là? Moi, je les cherchais. Puis finalement, j'ai expliqué que je voulais essayer de sortir un peu des sentiers battus, puis de proposer quelque chose d'un peu plus, à dire, moins Tolkien, si je peux dire ainsi.
Tout à fait.
J'ai créé un peu mon propre peuple. Au départ, je voulais vraiment faire, on va dire, un peu de la fantaisie réaliste où il y a vraiment que des humains. Mais je me suis dit que c'était un petit peu dommage de créer un univers de rick fantasy puis de se cotonner qu'à des personnages humains. Donc c'est là que j'ai commencé à créer un peu, des hommes poissons, des hommes lézards. Ça, c'est, on voit également dans les romans de fantasy, mais c'est peut-être moins, on va dire, moins souvent que les orques et les gobelins.
Et d'ailleurs, chez Robert Howard, il y a les hommes serpents plutôt. Hein, c'est vraiment le mal incarné. C'est le pire, la pire créature qu'on puisse.
T'en as un dès le début dans le prologue.
Parce qu'ils incarnent la civilisation dans ce qu'elle est devenue de plus décadente, quoi.
Et là, c'est le reptide dans la.
Ah bah oui, tout à fait.
Ouais. Voilà. Non, parce que tellement, il fallait juste que je trouve un peuple qui correspondait bien. Un peuple qui pourrait vivre dans le sud. Alors du coup, j'ai pensé directement à ça. Comme je disais, je me suis pas embêté. Les habitants du sud, c'est des hommes lézards. Ceux qui habitent dans les îles, c'est un peu des hommes poissons. Voilà. Donc au nord, c'est des humains, style viking. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose où tout le monde peut comprendre tout de suite.
On voit qu'il y a vraiment un mix d'influences, tant de la littérature interactive qu'on aime bien, les défis fantastiques, et aussi de séries, comme ton premier choix musical, c'est un thème autour des Vikings. Et avant de conclure, Kevin, voilà, c'est un peu pour nous faire plaisir, quel est ton top 3 des scènes parmi les 63 chapitres que tu adorais écrire dans La Perle solaire, mais sans spoiler nos auditeurs?
Ouais, bien sûr. Alors, au début, je pensais que ça allait être une question difficile, mais en fin de compte, en relisant un peu mes notes, en fait, j'ai tout de suite 3 scènes qui me sont venues en tête, et le hasard, c'est que c'est à chaque fois, ça met en scène l'un des 4 personnages principaux. Déjà, la première scène, c'est la fameuse attaque des loups dans la forêt quand Anastasia et Drevis s'y trouvent, parce que après cette scène-là, Drevis ne sera plus jamais celui qu'il a été avant. Donc ça, c'est déjà marquant. Ensuite, le deuxième passage, c'est la première rencontre entre Enamius et Kelly. Voilà, on voit tout de suite un petit peu le caractère des deux personnages. Et puis, quand on lit ça, peut-être on va jamais douter qu'il y aura une grande histoire d'amitié entre les deux. Et puis, la dernière et non moindre des scènes que je garde en mémoire, c'est bien sûr l'arrivée de l'empereur vampire quand il arrive au temple et qu'il fait face justement au doyen supérieur du temple. Et puis, il y a leur première interaction entre eux, surtout qu'ils se connaissent, parce que le doyen, il était présent lors de la première guerre contre les vampires. Et là, on sent vraiment le moment intense de la scène. Et c'est là, il y aura vraiment un tournant très, très important dans l'histoire.
Ouais, le temple des Monts Blancs.
Exactement.
Voilà, en mot de conclusion, j'en aurais 2. Alors, qu'est-ce qu'on exclut pour nos auditeurs du 101.5 que tu vas explorer de plus dans la suite directe L'Océan de Feu, apparaître en 2026?
Exactement. Bon, comme le nom l'indique, les personnages vont descendre notamment vers le sud avec ambiance désertique, avec tout ce qui va avec de ruines un petit peu englouties dans le sable. Il va aussi faire un passage sur la terre des îles avec l'ambiance vraiment jungle, également ruines abandonnées, antiques, avec une inspiration justement de l'île du roi lézard, tu vois, pour l'ambiance jungle. Je voulais faire honneur, tu vois. Oui. On arrive toujours au lit, donc vous êtes le héros.
Oui, l'empereur des hommes lézards, un bon DF.
Aussi,
Et puis, je vais te laisser aussi quelques mots à dire, donc, pour ton éditeur, qu'on connaît pas en France. C'est un éditeur suisse et j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur Illyre Édition grâce à toi.
Oui, voilà, exactement, il est réédition. Ben, d'ailleurs, je remercie mon éditeur Ilir, qui j'espère m'écoute en ce moment, de croire en moi et en mes capacités. Il est vraiment très passionné dans ce qu'il fait. Il aimerait justement faire découvrir un petit peu la fantaisie, on va dire, au peuple suisse, en tout cas Neuchâtelois, ah oui. Qui eux ne jouent que par le polar. Ah bon. Donc pour ça, je le remercie pour ce qu'il fait. Il est situé à Crécier et il est également, donc c'est dans le canton où j'habite, et il propose beaucoup de livres pour enfants et également audio. Donc si vous allez faire un tour, il y réédition, okay. Crécier, vous allez tomber sur ce site et vous allez tomber sur plein de choses intéressantes.
Bah, je te remercie. Donc il est trouvable en France sur Amazon, voilà, à 27,90 €. C'est un très 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 bon premier tome qui donne envie de lire la suite. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est que tu m'envoies la suite pour en parler de nouveau sur le 101.5 FM. Je te remercie.
Alors,
Kevin.
Donc,
je te remercie beaucoup pour cet échange du soir.
Ben, merci à vous, c'était un grand plaisir et j'espère qu'on se reverra bientôt.
Ouais,
encore un tout, merci pour tout.
Voilà, merci Kevin. À bientôt pour de prochaines aventures.
Exactement. Bonne lecture et à bientôt. Bonne soirée, au revoir.
Salut.
On va continuer de parler aventure dans l'imaginaire sur le 100.5 avec Hélène de Windorm.
Oui, tout à fait.
Dans quelques minutes. Et puis avant, Sébastien, on écoute ton choix musical. No Sex Last Night.
Voilà, paralysé. J'ai adoré ce groupe vu aux Jokers.
Ah bah très bien.
Voilà.
On va continuer de parler de fantasy dans cette émission avec Jean-Christophe pour le comics Hélène de Windhorn.
Oui, Hélène de Windhorn, donc c'est un comic book qui est sorti chez Glénat à l'automne 2025, sorti un peu plus tôt aux États-Unis chez Dark Horse Comics. Et du coup, ouais, j'ai trouvé la solution de parler de ça plutôt que de revenir éventuellement sur Conan, parce que c'est un peu un mix de tous les univers de fantasy qu'on a pu rencontrer ou qu'on connaît, entre le Magicien d'Oz, Conan, Alice au Pays des Merveilles, ou alors Narnia éventuellement.
Ouais.
Alors ouais, pour vous donner l'eau à la bouche, je vais vous donner le pitch, que ce sera plus simple, et puis après je vais vous en parler un peu plus. Donc, après la mort tragique de son père, C.K. Cole, romancier reconnu dans les pulps américains et créateur de personnages de succès tels que Otan, Helen Cole est prise en charge par son grand-père qui la force à venir vivre dans son manoir de Windhorn. Marquée par la mort prématurée de son père et perdue dans son monde nouveau et étrange, la jeune adulte sombre dans l'alcool pour oublier ses tourments. Ce n'est qu'en découvrant petit à petit les secrets cachés au sein du vaste manoir de son grand-père qu'Hélène commence à s'acclimater. Il fera connaissance à l'extérieur des murs avec des créatures légendaires, semblables à celles qui peuplaient autrefois les récits de son père. Donc ouais, c'est voilà, on peut le lire dans le pitch, il y a des similitudes entre certains noms qu'on peut connaître dans l'heroic fantasy. C.K. Cole, ça peut éventuellement faire penser à C.S. Lewis, le auteur de Narnia.
Ouais, qui était pote de Tolkien d'ailleurs.
Qui était pote de Tolkien, ouais, ouais. Ou J.R.R. Tolkien. Le personnage que son père a créé, ça, Otan, bon, ça fait vaguement penser à un certain Cimmerien, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un récit en pur hommage à la fantasy. Donc ce récit est écrit par Tom King, hein, c'est un auteur prolifique de comic book depuis les 10 dernières, 15 dernières années, hein, qui a un passé qui n'a vraiment rien à voir. Il était agent de la CIA dans une cellule de contre-terrorisme et qui a tout plaqué pour écrire des comics. Donc il a écrit des comics indépendants et qui a bossé aussi chez DC et Marvel, donc qui a fait chez Marvel La Vision, une mini-série, et beaucoup de titres chez DC, en passant par Batman, Mister Miracle.
Ça pose pas du tout de problème de travailler chez DC et chez Marvel.
Bah c'est-à-dire qu'il a commencé, bah il avait pas ouais, forcément pas. D'exclusivité à l'époque. Maintenant ah ouais. il a plus de voilà. Il est vraiment affilié à DC parce qu'il bosse maintenant avec James Gunn pour adapter Supergirl, pardon, dont il a écrit une œuvre, voilà, qui va être pleinement adaptée.
Ah oui, il est en train d'adapter son comics Supergirl voilà, en film.
Grâce à James Gunn qui l'a, on va dire.
James Gunn, les Gardiens de la Galaxie.
Les Gardiens de la Galaxie qui a lui réalisé Superman l'année dernière.
Ouais.
Qui est sorti l'année dernière. Donc il est en plein lien avec DC Comics. Voilà, il a fait beaucoup de choses avec DC Comics. Et la dessinatrice avec qui il a écrit qui a dessiné avec lui ce Supergirl, est également la dessinatrice de Hélène de Windhorn, c'est Belkis Evely, pardon, à chaque fois je confonds les syllabes. Elle est brésilienne, et voilà, elle a vraiment un très très grand talent, tellement qu'elle a été récompensée d'un Eisner Award en 2025, l'année dernière. Et en France, Hélène de Windhorn a été récompensée par un First Print Award, donc c'est une récompense.
Ah, comment tu dis?
Un First Print Award, c'est une nouvelle cérémonie qui existe depuis l'année dernière, enfin depuis okay. 2024. Et elle a été récompensée au mois de décembre, cette BD, par un prix spécial libraire. Donc il y a plusieurs libraires qui ont été choisis pour faire partie de ce jury et qui ont choisi Hélène de Windhorn.
Pourquoi First Print?
Alors c'est le titre d'un blog et d'un podcast.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, d'un journaliste spécialiste comics qui a initié avec son comparse, donc Arnaud et Corentin, qui ont initié ce First Print Award. Voilà, qui tient à Paris maintenant depuis 2 ans et voilà qui remet des prix des comic books.
Des trucs qui leur ont plu.
Voilà, voilà. Et donc bah pour en revenir à ce Hélène de Windhorn, donc vous avez compris qu'il y avait un peu un mélange de univers. Hein.
Ouais.
Notre univers, donc là, qui se passe vraiment dans les années 30, vraiment.
Ah oui.
Vraiment à la même période où.
Bah, si on parle d'écrivain de pulp, voilà. ouais, c'était dans
et
les années 30.
Voilà, donc ça dépeint. Comme le précédemment, comme Supergirl, ça dépeint la construction d'une jeune femme, de son passage de l'adolescence à l'âge adulte, après une perte tragique. Parce que dans Supergirl, il y a aussi une épreuve de deuil.
D'accord.
Donc. C'est un passage qui marque, comme dans beaucoup de cas dans la fantasy, une quête, une initiation et une transmission, on va dire. Et donc, on retrouve beaucoup de, comme je disais dans le pitch, les univers qu'on connaît. Hein. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui était vraiment Magicien d'Oz, Conan le Barbare.
Mais du coup, elle vit des aventures quand même dans ces univers.
Ouais, à un moment, elle se retrouve plongée dans son grand-père disparaît pendant des longues périodes.
Ah oui.
Et elle arrive à retrouver le chemin par où il a disparu et dans autour de son manoir. Il y a une espèce de porte mystérieuse. Donc voilà, ça fait penser à Alice au pays des merveilles ou alors l'armoire de Narnia. Et donc du coup, elle retrouve dans ces mondes qui vont du coup inspirer son père décédé, qui a écrit. Voilà, au final, la vie de son grand-père.
Sa vraie vie dans un autre monde voisin.
On reste quand même perturbé à savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a beaucoup de notions d'alcool, parce que la jeune fille, par la perte de son père, succombe.
C'est pas la prohibition d'ailleurs, là?
À l'alcool, elle va piquer des bouteilles de vin dans la cave de son grand-père. La nurse qui se charge d'elle la retrouve souvent alcoolisée. Donc des fois, on a souvent le doute de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans son imagination. Donc il y a toujours une histoire un peu perturbante à savoir, à se poser la question si c'est vrai ou pas. Mais il y a des très très beaux dessins.
C'est un one-shot ou pas?
Alors c'est un one-shot, ouais. Et puis il y a vraiment des très très belles pages. Là, si je vous montre ça, ça fait vraiment penser à... Voilà, on ne pourra pas le voir ce soir, mais voilà, c'est... Je vous indique d'aller voir
Les mises en scène à la phrase
sur le moteur de recherche ou Google, vous verrez bien de toute façon des très belles images. Donc voilà, c'est vraiment un très beau récit. Donc et c'est un one shot, donc franchement il y a pas de problématique de se dire tiens, il y a pas de début, il y a pas de fin. Voilà. Donc c'est un très très bon, très très gros coup de cœur pour moi en 2025.
Et tu nous conseilles aussi leur Supergirl. Donc
et leur Supergirl, pareil, il n'y a pas forcément besoin de... Voilà, c'est un one-shot aussi. Donc il y a vraiment un... Et c'est un mélange vraiment science-fiction et fantasy. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs entre les deux. Et des magnifiques dessins. Ouais, donc au vu du film qui arrive, et je crois qu'Urban va le rééditer prochainement, parce qu'il était sorti il y a 4 ans, mais je crois qu'ils ils vont le rééditer justement au vu de la sortie du film. Donc ce serait éventuellement...
Ouais, je vois qu'il y a une sortie de prévue aux États-Unis du film en juin 2026.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, il y a la bande-annonce qui est déjà sortie il y a quelques temps. Là.
Ok.
Voilà. Et donc ouais, c'est vraiment un univers qui nous rappelle tout ce qu'on a connu et tout ce qu'on aime dans la fantasy.
Voilà. Ok. Bon, et ben justement, tiens, on enchaîne avec ton choix musical.
Oui. Ouais. Je dis tiens, tu m'as demandé un choix musical. Alors j'ai pensé à rechercher quelque chose qui serait pas forcément une musique de film. Et si c'est une musique de film, mais c'est chanté par David Bowie, parce que David Bowie il a une vie d'acteur. Il est mort il y a tout juste 10 ans, et il y a 40 ans, il jouait dans le film Labyrinthe. Voilà.
Et puis on s'écoutera l'interview de Julien Vedren juste après, qui nous parle de donc, cette soirée Le Cercle Rouge, qui aura lieu un grand jeudi prochain.
remind me of the babe. What babe? Babe with the power. What power? Power of voodoo. Voodoo. You do. What? Remind me of the babe.
Bonsoir Romain.
C'est toi l'organisateur de cet événement au cinéma Saint-Charles à Ingrandes, autour du Cercle Rouge?
Alors je suis juste un entremetteur, c'est-à-dire que l'association qui chapeaute le cinéma à Ingrandes m'a demandé si j'avais des contacts chez De Noël pour faire venir Bernard Thora à l'occasion de la projection du film Le Cercle Rouge. Et bon, ce que j'ai fait, c'est de dire, je vais essayer. J'ai envoyé un mail à l'attaché de presse qu'il a transmis à la personne en charge des relations libraires et manifestations. Et Bernard Thora a dit, bien sûr que je peux venir. Alors, il faut savoir juste que Bernard Thora, c'est le premier assistant réalisateur sur le tournage du film Le Cercle Rouge. C'est-à-dire que t'as un réalisateur, il a plusieurs assistants et en gros, l'assistant en chef, c'est Bernard Thora. Donc, lui, il était tout jeune à l'époque. Hein, il devait avoir 23 ou 24 ans. C'était un de ses premiers grands films, même si il avait déjà eu l'occasion, par exemple, de collaborer avec Jean Eustache. Et il s'est retrouvé sur ce tournage qui, dans le livre « Dans le Cercle Rouge », nous apprend qu'il s'est déroulé sur 66 jours. Pourquoi cet ouvrage ? Parce que Thora a retrouvé des notes qu'il avait prises pendant le tournage et il dit bien, il avait toutes les informations qu'on lui fournissait sur le déroulé du tournage au jour le jour, heure par heure, minute par minute. Et il explique bien qu'il ne sait pas pourquoi il a gardé ça puisqu'il ne les a pas forcément gardés pour tous les films qu'il a fait. Et donc peut-être que déjà il se rendait compte que ça allait être un film important.
Donc Le Cercle Rouge, film de Jean-Pierre Melville, 1970. Pourquoi c'est important de voir ou de revoir ce film au cinéma?
Alors, je ne sais pas si c'est important ou pas de revoir ce film au cinéma. Il est toujours bien de revoir des films ou de voir des films sur le grand écran parce que on s'en prend plein la figure et que le cinéma, quand il est tourné pour être visionné sur grand écran. Je dis je sais pas parce que quelque part le film de Melville est très daté, il date des années 1980, des années 1970. Il est proche de la fin d'un certain cinéma, dit le cinéma à la papa, si tu veux. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait hier sur Arte un documentaire sur Lino Ventura, et il faut savoir que Lino Ventura, au début des années 80, regrette ce cinéma d'époque. Et Lino Ventura a été pressenti pour jouer le rôle que tient André Bourvile dans le film Le Cercle Rouge, mais en raison d'une brouille avec Melville, ça ne s'est pas fait. Et aussi bien Melville avait besoin de se brouiller de temps en temps pour se réconcilier, autant Lino Ventura était hyper fidèle et quand on le trahissait, c'était pour la vie. Et donc, il ne s'est jamais rabobiché avec Melville, donc c'est Bourvile qui a tenu son rôle, rôle que au début justement, et ça c'est expliqué dans l'ouvrage de Bernard Thora, Melville était contre l'idée que Bourvil vienne, puisque Bourvil, pour tout le monde, c'est la grande vadrouille, c'est les comédies. Et surtout, ce qu'on se rend pas compte, c'est un phrasé et un accent qui vient de Normandie. Et donc, là-dedans, dans cet ouvrage, on apprend notamment comment est-ce que on écrivait les dialogues de Bourvil en faisant l'apocope de certains « e », de manière à ce qu'il soit obligé d'apprendre vraiment un texte et tellement concentré que il ne puisse plus faire du Bourvil. Voilà. Accessoirement, c'est aussi un des derniers films de Bourvil. C'est le dernier, je crois. Il était atteint d'un cancer. Il était décharné. Il allait bientôt mourir. Il devait avoir 53 ans. Mais tout ça, évidemment, on pourra en parler donc ce jeudi 5 février après la projection du film, puisque Bernard Stora fera une rencontre que j'ai l'honneur d'animer et des dédicaces du livre et aussi de son roman, un premier roman qu'il a écrit il y a quelques années, qui revient sur ses origines méditerranéennes, une espèce de saga familiale en plusieurs lieux et plusieurs époques. Et comme le cinéma fait bien les choses, eh bien on boit un coup avec Bernard Stora pour parler de tout ça. Et petite histoire rigolote, à un grand, nous avons une ancienne actrice qui est Céline Cossimon. Et figure-toi qu'elle a été dirigée par Bernard Stora pour deux téléfilms à la télévision sur France Télévisions dans les années 90. Et donc, c'est aussi des retrouvailles. Et c'est pour dire à quel point ce monde, il est petit, quoi.
Est-ce que c'est la première fois que tu interviens comme ça au cinéma d'un grand avec masque noir?
Au cinéma, c'est pas la première fois, c'est la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus. Il y a eu une fois, je m'en rappelle très bien, c'était pour dans le cadre du prix SNCF du Polar, pour des visionnages de courts-métrages et pour faire voter tous les spectateurs. Il se trouve que avec le cinéma, on a décidé de faire trois interventions par an. La prochaine sera peut-être issue du film de Arthur Harari qui s'est tourné en partie sur un grand. Voilà, donc d'après la bande dessinée Le cas David Zimmerman, on n'a pas encore de date, mais il est prévu de faire des avant-premières au cinéma d'un grand. Donc je veux bien m'y recoller à nouveau, parce que j'ai déjà fait une rencontre à la bibliothèque autour de la bande dessinée avec Arthur et Lucas Harari. Et on a d'autres plans, tous aussi fous les uns que les autres. Pourquoi pas, on en a parlé, de faire une rencontre autour du film d'animation Les Légendaires, qui est sorti la semaine dernière.
Ah ouais.
Figure-toi qu'il y a un influenceur qui fait des doublages. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de le faire venir pour l'amener à rencontrer et les collégiens et les enfants de primaire pour parler à la fois de cinéma et de son métier d'influenceur. Donc, c'est dans les tuyaux. On n'a pas encore de réponse, mais l'idée, si tu veux, c'est pas uniquement dans ce très beau cinéma d'art et d'essai de faire que des vieux films, mais c'est de s'adresser à tous les publics pour susciter l'envie de venir. À l'heure où je te parle, par exemple, pour le Cercle Rouge, on a une soixantaine de réservations pour une salle de 122 places. C'est pas mal quand même. Et dernière chose, alors j'ai demandé, mais je ne sais pas encore si on va les avoir. Figure-toi que dans son ouvrage, Bernard Stora, il fait référence à des entretiens de Jean-Pierre Melville publiés aux éditions Capricci, qui sont une excellente maison d'édition aussi, qui est installée à Nantes. Et donc, je leur ai proposé de venir assister à la rencontre et d'amener des exemplaires du livre des entretiens avec Jean-Pierre Melville, histoire de boucler un peu cette boucle de ce cinéma. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon que il y en a autant de raisons que d'acteurs de voir ce film, puisqu'il y a quand même un sacré casting, hein, il faut quand même bien le dire. Et que c'est un noir et blanc très léché, ça vaut le coup. Il y a des dialogues qui sont parfaitement ciselés et c'est une intrigue policière comme on en voit très peu au cinéma. Voilà, donc comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma, quoi.
Et une belle musique assez jazzy d'Éric de Marsan.
À plus tard.
terminer notre émission avec du Éric de Marsan en fond, la BO du Cercle Rouge, inspiré par le Modern Jazz Quartet, hein, qui avait fait la BO d'un policier américain, je me rappelle plus. Donc c'est jeudi au cinéma Le Saint-Charles à un grand, des réservations au 06 08 93 41 69. Sébastien, tu avais d'autres trucs à annoncer dans l'agenda ?
Oui, on a eu le plaisir d'avoir notre compère Jean-Hugues Villacampa en début de saison pour nous parler.
C'était au mois d'août, je crois.
Voilà, de la maison d'édition À la Flamme, en fait, qu'il co-dirige avec Robert Darvel et Jérôme Bercheren. Et on a un post-apo champêtre romain qui est sorti tout récemment, le 3 février. Ça tombe bien, on est le 3.
Champêtre, t'es sûr ? Ça se passe pas à Londres ?
Bah, ça se passe à Londres, mais il y a aussi l'exploration d'un lac, et ça s'appelle
After London.
After London. Alors, on vous invite pas à un after act, mais pour le mois de mars, on va certainement vous en parler parce qu'on adore, moi et Romain, le post-apo.
C'est vrai.
De Richard Jefferies.
Et puis, Julien Védren a une autre actu aussi, c'est lui qui animera les rencontres de la collégiale Saint-Martin le dimanche 1er mars pour une journée spéciale polar avec reconstitution d'une scène de crime par Norbert Fleury. Et puis, table ronde BD et polar de la police scientifique à la fiction avec Luc Brunschwing, Norbert Fleury et Gaetz. Et puis, une deuxième table ronde, le polar historique reflet de quelle époque avec Thomas Rio et Armel Hérisson. Et nous, on se dit, alors rendez-vous dans deux semaines, en fait, on sera pas trop là, donc ça va être une rediff d'une de nos vieilles émissions consacrées aux super-héros, mais genre une émission de 2013. Hein. Puis donc, on se retrouve dans un mois dans Imaginaire sur le 101.5.
Bye bye.
Salut bon Jean-Christophe.
Merci. 101.5 FM.